Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
It's been 4 months since Jolene Cummings was last seen alive, and her family still begs for answers, hoping her body will be found. Kimberly Kessler faces a murder charge. Last week, newly released surveillance videos show Kessler driving Jolene's SUV and then parking it in the Home Depot in Yulee. Minutes later, more surveillance captured Kessler inside a Gate gas station, where prosecutors said she used the phone to call a taxi.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Le lundi 14 mai 2018, dans le comté de Nassau, en Floride, Jolene Jensen, 34 ans, mère de 3 enfants, est officiellement portée disparue.
Étrangement, la dernière personne à l'avoir vue, sa collègue Kimberly Kessler,
est elle aussi introuvable.
En creusant l'identité de cette mystérieuse collègue, un immense tissu de mensonges est révélé. Mais qui est donc réellement Kimberly Kessler?
Suivez-nous alors que nous tentons de faire la lumière sur une disparition mystérieuse ainsi que sur les multiples vies de cette femme au passé trouble.
Bonsoir Émile Gauthier, comment vas-tu?
Ça va très bien Sébastien Lévesque, et toi?
Oh oui!
Ça va bien parce qu'on a encore une histoire extrêmement passionnante
oui.
ce soir, troublante aussi.
Oui, beaucoup.
Si vous avez aimé l'épisode qu'on a fait il y a quelques saisons sur Laurie Erica Ruff, cette femme qui a occupé plusieurs identités dans le passé, qui a volé plusieurs identités aussi et qui a commis un suicide un peu inexplicable, vous devriez aimer celui-ci, l'histoire de ce soir de Kimberly Kessler.
Oui, c'est moi, Laurie Erica Ruff, ça a toujours été un de mes cas préférés dans les cas qu'on a couverts, justement. Quand on s'est replongé, quand je me suis replongé dans le cas de... plongé dans le cas de Kimberly Kessler, j'avais un peu l'impression de vivre la même émotion de tomber dans un tourbillon de twists qui arrive au fur et à mesure que tu fouilles le dossier. On peut pas beaucoup vous en parler parce qu'on va quand même... Si on vous en parle trop, on risque de divulgâcher un peu toutes les punchs de l'histoire. Mais dites-vous que l'histoire d'aujourd'hui de Kimberly Kessler, ça fait beaucoup référence à, justement, comment on peut disparaître à l'ère d'aujourd'hui. Il peut être facile aussi, encore une fois, de se créer ou d'utiliser l'identité de quelqu'un d'autre. Comment le système a des trous et où est-ce que ça peut amener?
Et vous allez voir, ça pourrait être un film, l'histoire de Kimberly Kessler. Ça tourne au drame à un certain moment, on ne veut pas vous en dire trop, mais vous allez voir, c'est un peu comme l'histoire de Laurie Erica Ruff, ça vous tient en haleine, c'est palpitant.
Oui.
Et puis, cette histoire-là est encore plus extrême, selon moi.
Ah oui, absolument.
Mais avant toute chose, pour passer au travers de cet épisode-là, on boit le Saint Graal de la bière québécoise, mon cher Seb, une Oval, en fait. On boit la saison d'Uval, qui vient justement de la branche Oval de Val d'Espoir en Gaspésie.
Oui.
C'est une bière quand même assez rare. Quand tu as une Oval dans les mains, t'as tient fort pour pas te faire attaquer dans la rue. Parce que c'est vraiment une bière qui est très recherchée. Elle est à 6% d'alcool. C'est une bière forte quand même, la saison du Val. Mais elle est d'inspiration belge. Là. C'est une inspiration saison belge.
Oui.
Donc une bière qui est bien fermentée en cuve d'inox pour favoriser le goût et les arômes d'une levure spécifique. Donc une bière qui goûte bien la levure. pur. Là. Et cette bière-là nous a été offerte par Kat Beaupré, en fait, qui nous a envoyé cette bière-là par la poste. Merci à toi, Kat. La bière, c'est bien rendue et on la savoure grâce à toi. Et si vous voulez faire comme elle, mais que vous voulez pas nous l'envoyer par la poste, vous pouvez passer par l'onglet Tournée de bière au distorsionpodcast.com et là, vous pouvez nous faire un don, encourager le show et remplir notre fridge.
Oui, on a aussi un shout-out pour une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Chamiacal 75 de France.
Ouh.
Et il ou elle nous dit « Merci pour ces podcasts, je suis devenue une vraie distordue, donc c'est une elle. Pour ma part, le soir, je vous écoute avec un verre de vin rouge. Mon côté français, probablement.
Mmh, un bon petit vino.
Merci à toi. »
Faut pas oublier aussi qu'on a des shout-outs à donner à nos membres Patreon. Donc, on remercie tout le monde qui ont joint les rangs de notre site Patreon. On vous rappelle, grosso modo, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un forfait à 2$ qu'on appelle le forfait distordu qui donne accès à des épisodes, dont celui-ci en avance, à tous nos épisodes en avance, mais aussi rabais sur la boutique, un serveur Discord où vous pouvez discuter avec d'autres distordus, un shout-out dans les épisodes, évidemment, quelques trucs comme ça, mais on a aussi un forfait à 7$ par mois, qui est le forfait Oui Monsieur, qui lui donne accès à d'autres contenus exclusifs. Ouais. Donc, il y a des segments parfois avec des invités qu'on va enregistrer spécialement pour les membres Oui Monsieur, des after-shows aussi. Donc, généralement, environ une fois sur deux, on enregistre des after-shows, parfois des petites réflexions, des choses comme ça. Et ça, c'est exclusif pour les membres Oui Monsieur sur Patreon. Mais là, on doit remercier pour l'instant nos nouveaux membres.
On commence par Denise L. Merci.
Merci Mélina C. C'est grâce à toi que Distorsion existe.
Merci Angéline.
Un autre gros shout-out à Radia.
Merci à toi Guy S.
Un autre gros shout-out à Richard L. C'est grâce à toi que Distorsion existe.
Merci à notre chère Lily.
Aussi, on ne pourrait pas être là sans l'aide de Nick Tarat.
Merci aussi à Audrey V.
Et on envoie une grosse dose de love et un gros shout-out à Dave G. Merci mon G. Je pense qu'on a pas mal tout dit, mon cher Seb. Est-ce qu'on est prêt à se plonger au cœur de ce nouvel épisode?
Oui, mais juste avant, mon cher Émile, nous devons dire un mot à propos de notre partenaire, la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal, celle qui enseigne aux adultes, et où les admissions sont en cours pour le certificat en enquête et renseignement, comme pour les 30 autres programmes qui sont offerts.
Absolument, mon Seb. Il s'agit d'un certificat universitaire de 30 crédits là, pour toute personne passionnée d'enquête et qui souhaite travailler dans les milieux professionnels ou criminels. C'est parfait pour les distordus, ça.
Oui.
Au terme du certificat, vous serez en mesure de mener une enquête de A à Z.
Ce certificat-là est parfait si vous voulez compléter une formation existante, réaliser un bac par cumul avec d'autres certificats, par exemple comme celui de criminologie, ou même réorienter votre carrière.
Est-ce que ce serait une bonne formation selon toi là, pour, mettons, deux podcasteurs qui s'intéressent aux enquêtes?
Oh oui, mon cher Émile, même que j'y pense un peu chaque jour.
Peu importe d'où vous venez, que vous soyez un distordu canadien ou européen, vous pouvez vous inscrire dès maintenant au certificat en enquête et renseignement à la FEP, la Faculté de l'éducation permanente, au fep.umontréal.ca, fep.umontréal.ca. Et je pense qu'on a tout dit, Seb. Est-on prêt à se lancer dans l'histoire tordue de Kimberly Kessler?
Oui, oui monsieur.
Allons-y.
Nous sommes le dimanche 13 mai 2018 dans le comté de Nassau en Floride et c'est la fête des mères. Mais c'est aussi l'anniversaire de Jolene Cummings. Jason Cummings, l'ex-mari de Jolene et père de ses deux enfants, elle a eu un autre enfant qui est décédé en bas âge, a la garde ce week-end-là. Par contre, plusieurs semaines auparavant, il s'est entendu pour que les enfants passent la journée avec elle pour célébrer son anniversaire, mais aussi la fête des mères. Pour procéder à l'échange des héritiers, les parents s'étaient donné rendez-vous à l'épicerie Winn-Dixie située dans la ville de Hilliard, toujours en Floride. C'était un point de rencontre facile pour eux, situé à mi-chemin, chacun de leur domicile. Par contre, Jolene, qui est habituellement toujours à l'heure, ne se présente pas au point de rendez-vous tel que convenu. Après plusieurs tentatives pour la rejoindre, Jason tombe toujours sur sa boîte vocale. Il appelle la mère de celle-ci, Anne Johnson, pour lui demander si elle sait pourquoi Jolene ne s'est pas présentée et pourquoi elle ne répond pas à ses appels ni à ses textos. Sa mère, qui n'a pas vu Jolene depuis une semaine, devient très inquiète et décide elle-même de se rendre à la maison de Jolene. Rendue sur place, elle constate que celle-ci est bel et bien absente, ainsi que son Ford Expedition beige 2006. police. À la fin de la soirée, n'ayant toujours pas de nouvelles, elle décide qu'elle signalera sa disparition aux autorités dès l'aube.
C'est jamais évident de savoir quand signaler une disparition, surtout d'un adulte.
Oui, exactement. Puis t'as tellement raison. Puis justement, ce week-end-là, elle avait pas la garde de ses enfants, donc techniquement, elle avait pas de responsabilité en tant que telle. Donc, ça devient difficile à savoir si elle était partie sur la go ou ailleurs. Mais généralement, c'était pas dans son comportement habituel de pas se présenter. Là. Surtout que c'était sa fête en plus, donc elle voulait fêter avec ses enfants.
Oui.
Le lendemain matin, le 14 mai 2018, à Ferdinand Beach, toujours dans le comté de Nassau en Floride, Jolene Rebecca Cummings, ou Jolene Jensen, son nom de jeune fille, 34 ans, mère de 3 enfants, est maintenant officiellement portée disparue. L'enquête débute et aucun indice concret ne permet de comprendre où elle peut bien se trouver et le salon de coiffure où elle travaille et où elle a été vue pour la dernière fois est fermé. On le sait, les salons de coiffure, même aux États-Unis, partout, c'est toujours fermé hein, le dimanche et le lundi, c'est leur week-end à eux. Donc, pour l'enquête, c'était difficile de pouvoir faire quelque chose cette journée-là. Il n'ouvre que le lendemain. Le soir venu, des recherches sont effectuées durant plusieurs heures dans les boisés dans les environs de sa maison et du salon de coiffure. Ils ont cherché à cheval, en auto, à pied dans les bois, etc. Cependant, les recherches ne donnent rien de concluant. Par contre, en parallèle, les enquêteurs ont découvert qu'un rapport de police avait été produit quelques jours auparavant, soit le jeudi 9 mai, qui rapportait que des policiers s'étaient présentés en soirée au domicile de Jolene. Car sa voisine, Megan Garcia, s'était plainte du bruit provenant de la maison. Selon son témoignage, elle disait avoir entendu plusieurs objets se briser sur le plancher et que la discussion était agressive. Et lorsqu'elle a entendu qu'elle criait aux enfants de rester dans leur chambre, elle a décidé d'appeler la police parce qu'elle avait peur pour les enfants. Une fois sur place, la police interrogea Jolene sur les événements qui venaient de se passer. C'était son ex-petit ami, Jason G, qui était à la maison. Il voulait que Jolene l'héberge quelques jours, et à cause de son refus, il se mit en colère et une dispute éclata. Il était très en colère et cassa effectivement plusieurs objets sur le plancher et les murs. Malheureusement, Jason n'était plus sur place lorsque les policiers arrivaient, car il s'était enfui dans les bois lorsqu'il les entendit arriver, car il savait qu'il était en probation suite à un autre crime qu'il avait connu par le passé et il devait se tenir tranquille. Avec cette information importante en main, l'ex-petit ami de Jolene, Jason G, devient donc une personne d'intérêt dans sa disparition. Il devient immédiatement recherché par les autorités. Est-ce qu'il l'aurait tué pour se venger de son refus de l'héberger? C'est une question quand même que les autorités se posent. Rapidement même, il y a une ex de Jason qui est sortie dans les médias pour clamer qu'elle avait déjà eu le même genre d'altercation avec lui et qu'il avait cassé sa vaisselle, brisé son téléphone, crevé ses pneus pour ensuite la menacer de lui rendre la vie misérable. Vraiment de lui rendre une vie misérable. Puis si vous googlez Jason G, là, vous allez voir, il n'a pas l'air d'un doux. Là, il a vraiment l'air d'un prisonnier. Sans jugement, là, mais juste la manière qu'il est attriqué, puis c'est sûr qu'avec son habit jaune de cellule, mais c'est ça, il n'a pas l'air d'un doux. Puis c'est drôle, si vous regardez la photo de Jolene, qui a l'air d'une toute fille toute douce, toute petite, qui a deux enfants, qui prend soin de ses enfants, qui est une coiffeuse, je trouve ça bizarre, le match avec cet homme-là. Mais on en sait peu, par contre, sur leur relation.
Les femmes aiment les bad boys, hein, c'est bien connu.
Voilà.
Toujours sans nouvelles de Jolene, le lendemain, le mardi 15 mai, les autorités se rendent au salon de coiffure Tangles Hair Salon, qui est là où Jolene travaillait, dès l'ouverture à 10h pour y interroger les employés ainsi que les clients qui sont venus au salon samedi dernier. Son patron, Jim Simmons, mentionne au shérif qu'elle était employée au salon depuis plusieurs années et qu'elle aimait ses enfants plus que tout au monde. Pour lui, c'est impossible qu'elle disparaisse abruptement comme ça. Il avoue aux policiers que c'était déjà arrivé une fois qu'elle s'absente quelques jours sans donner de nouvelles, mais qu'elle n'aurait jamais fait ça à ses enfants, c'est-à-dire disparaître d'une manière permanente.
Oui.
Même son de cloche de la part des clients et collègues interrogés. Jamais elle ne serait partie sans aviser personne, surtout qu'elle en parlait à tout le monde de sa journée de festivités prévue avec ses enfants et qu'elle avait très hâte de les rejoindre pour souligner son anniversaire et la fête des mères. Étrangement, par contre, son autre collègue, sa collègue Jennifer Siebert, la dernière personne à l'avoir vue lorsqu'elle quittait le salon de coiffure, ne se présente pas au travail cette journée-là, elle non plus, malgré qu'elle est pourtant bien à l'horaire. Les enquêteurs doivent absolument lui parler. C'est un témoin clé dans la disparition de Jolene. Jim, son patron, donne alors l'adresse de Jennifer aux policiers pour que ceux-ci puissent aller l'interroger chez elle. En tentant de se rendre chez Jennifer, ils se rendent compte que l'adresse n'existe pas et qu'elle est bidon. Mais là, c'est assez étrange. Pourquoi donner une fausse adresse à son employeur? Tu sais, c'est pas quelque chose que tu fais généralement. Là, parce
non,
que
exact.
Il peut avoir des chèques qui arrivent,
des, oui, des cartes, là,
exactement, ouais, des reçus d'impôts, mm-hmm, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? Déjà là, c'est un peu louche. Jennifer Siebert devient alors une deuxième personne d'intérêt dans le dossier de la disparition de Jolene. Un peu plus tard dans la même journée, l'ex-petit ami de Jolene, Jason G., qui était activement recherché, est finalement retrouvé par les policiers. Il se cachait à l'intérieur d'une maison à Hilliard sous des boîtes en carton. Il est alors arrêté pour violation de probation. Une fois amené au poste, il est questionné sur le cas de son ex, Jolene.
Ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Ils n'ont pas donné le détail comment les policiers l'ont trouvé dans cette maison-là, mais quand ils sont rentrés dans la maison, il était caché sous des boîtes de carton. Je trouve ça un peu enfantin ou drôle, tu sais, de te cacher des policiers en te mettant sous des boîtes de carton en espérant ne pas te faire voir. Je sais pas, tu dois être vraiment désespéré quand t'es rendu à te cacher là.
Il a dû apprendre cette technique-là des Looney Tunes.
Oui.
Dans la même journée, les autorités retrouvent le SUV, le Ford Expedition de Jolene, abandonné dans le stationnement d'un Home Depot dans le quartier Yulee. C'est toujours dans le Home Depot que les gens abandonnent leur voiture. Hein?
Je sais pas pourquoi.
Par contre, toujours aucune trace de Jolene. Comment la voiture s'est rendue à cet endroit? Était-ce Jolene qui la conduisait? On n'en sait rien. Un périmètre de sécurité est alors érigé autour de la voiture et les enquêteurs demandent immédiatement de voir les images des caméras de surveillance du stationnement. Avec ces images, ils seront en mesure de voir qui conduisait la voiture. Effectivement, en consultant ces images, ils ne remarquent que le Ford de Jolene a été garé dans le stationnement le dimanche 13 mai à 1h17 AM. Plusieurs minutes plus tard, on voit quelqu'un finalement sortir du SUV et s'éloigner de la voiture. La personne qui sort de la voiture ne ressemble pas à Jolene, mais plutôt à sa collègue de travail, Jennifer Siebert, de qui on a parlé tout à l'heure. Un mandat d'arrestation est alors émis envers Jennifer pour vol de voiture. Parce que là, qu'est-ce qui s'est réellement passé?
Oui.
Là, c'est assez mêlant tout ça, parce que de un, Jolene sort avec un ex-criminel qui a encore des choses à cacher, on dirait bien, et tout ça vient brouiller les pistes, et sa collègue, Jennifer, elle aussi est un peu embarquée là-dedans, puis est introuvable elle aussi, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux salon de coiffure?
Ouais. Le lendemain, le mercredi 16 mai, Jennifer Siebert, qui est toujours recherchée par les autorités depuis la veille, est rapidement localisée par des policiers du comté de St. John's, qui est situé toujours en Floride, puis j'ai vérifié avec Google Maps, c'est situé entre 50 et 55 minutes quand même du salon Tingles. Donc, c'est un peu étrange qu'elle se retrouve là. Elle semble vivre à l'intérieur de sa voiture, qui est une Kia Soul noire 2016. Et les policiers l'ont localisée. Elle était stationnée entre deux semi-remorques dans un aire de repos sur l'autoroute Interstate 95. Le jeudi 17 mai, dès l'aube, les autorités la réveillent et l'arrêtent au volant de sa voiture. Parce qu'ils ne voulaient pas l'arrêter. Hein. On sait souvent, ils localisent un suspect puis ils prennent quand même des démarches plus structurées hein, pour capturer quelqu'un. Donc, je vous disais, le jeudi 17 mai, dès l'aube, les autorités la réveillent et l'arrêtent au volant de sa voiture. Sa voiture est perquisitionnée et elle est amenée à la prison de St. John's. Mais étant donné qu'elle était recherchée par les autorités d'un autre comté, celui de Nassau, le lendemain, le vendredi 18 mai, elle est transférée à cette prison-là. Une autre journée s'écoule et finalement, elle est accusée officiellement de vol de voiture. Mais elle reste détenue, par contre, pour être interrogée pour son lien possible avec la disparition de Jolene. Étrangement, on peut remarquer sur son mugshot, c'est la photo lorsqu'on prend, lorsqu'on est arrêté, que du côté gauche de son visage, proche de l'œil, il y a de grosses égratignures. C'est soit un gros chat qui l'a griffé ou je dirais peut-être une personne qui tentait de se défendre. Une caution d'un demi-million de dollars est alors émise pour qu'elle puisse obtenir sa libération. C'est quand même une grosse somme pour un vol de voiture. Mais étant donné qu'elle est soupçonnée dans l'histoire de Jolene, il voulait s'assurer qu'elle ne sorte pas de prison.
Mm-hmm.
Ce qui est aussi étrange, c'est que justement, elle semble vivre dans sa voiture, elle semble pas d'avoir d'endroit fixe. Fait que je pense pas que c'est quelqu'un non plus qui sera en moyen de pouvoir payer cette caution-là. Pour le moment, Jennifer n'est accusée que d'avoir volé la voiture de Jolene, comme on vous disait, mais sa propriétaire reste encore et toujours introuvable. Pendant ce temps, les autorités demandent l'aide du public et demandent à quiconque qui a eu un rendez-vous ou même qui s'est arrêté au salon Tingle le samedi 12 mai de contacter le détective en charge de l'enquête. Cet appel à tous porte fruit. Ils reçoivent une information via l'organisme Crime Stoppers. On vous en avait déjà parlé hein, de cet organisme-là qui, dans le fond, est une ligne ouverte pour dénoncer toute information que tu pourras avoir sur un crime.
Et oui, c'est arrivé dans le passé que des gens ont contacté à maintes reprises, ont permis d'arrêter des gens. Même dans le cas de Magnotta, il y avait été contacté aussi à maintes reprises.
Oui, c'est vrai. Puis même Mme Souvanara là, de Halifax aussi.
Oui, exactement.
Elle aussi, c'est grâce à Crime Stoppers qui ont eu des des indices. Justement, selon un indice qu'ils ont reçu, ça les amène à faire des recherches à cheval dans un autre boisé qu'ils n'avaient pas encore cherché, qui était situé à Hilliard. Hilliard, je vous rappelle, c'est le secteur où l'épicerie était située, où elle devait rencontrer son ex-mari pour aller récupérer ses enfants. Par contre, ça n'a rien donné de concluant. Aucun indice, aucune trace de Jolene n'a été trouvée. Nous sommes maintenant le samedi le 19 mai et ça fait maintenant une semaine que Jolene est disparue. Le lendemain, sa mère, Anne, publie un message émouvant sur Facebook, rappelant à tous que ça fait une semaine que ses enfants n'ont pas eu de nouvelles de leur mère. Même chose pour ses proches et la famille. Et elle termine son message en suppliant de ramener Jolene à la maison. Pendant ce temps, Jennifer Seabird est elle ou elle est interrogée par les enquêteurs et leur fait des révélations assez troublantes sur son passé. On y reviendra. Le lundi 21 mai, suite à l'interrogatoire de plusieurs heures avec Jennifer qui a eu lieu il y a quelques jours, une conférence de presse pour donner un statut sur le dossier de la disparition de Jolene est annoncée par les autorités pour le lendemain. Tout le monde est sur le qui-vive. Le 22 mai, le lendemain, le shérif mentionne lors de sa conférence que malgré que le corps est introuvable, ils ont maintenant des preuves solides que malheureusement, Jolene n'est plus en vie.
Oh.
Évidemment, ils ne peuvent divulguer la preuve de ce qu'ils avancent pour ne pas nuire à l'enquête pour le moment. Ils mentionnent par contre que le vrai nom de Jennifer Seabird est plutôt Kimberly Kessler et qu'elle est née le 9 mai 68 et qu'elle vient de la ville de Butler en Pennsylvanie et qu'elle a utilisé un faux numéro d'assurance sociale et que maintenant elle est aussi accusée par le FBI pour possession d'un faux passeport. Donc, il y a une accusation supplémentaire là, qui a été faite et c'est elle-même lors de l'interrogatoire qu'elle a mentionné sa vraie identité. Il continue et mentionne que Kimberly est toujours suspecte dans la disparition de Jolene et que les enquêteurs tentent de rassembler le maximum d'informations et que de nouvelles accusations à son égard viendront sous peu. Puis il dit vraiment clairement que des nouvelles accusations contre elle vont arriver. La conférence se conclut avec un discours très émouvant de la mère de Jolene. Si vous voulez le voir, là, cette conférence de presse-là, elle est sur YouTube, là, elle dure une dizaine de minutes, puis c'est tellement triste. Ben, en fait, ce qui est triste, c'est quand sa mère s'adresse aux médias, là, puis
ouais.
Elle demande parce que là, on sait pas ce qui est arrivé à Jolene, tu sais, de qu'elle revienne ou de la libérer. C'est tellement triste, honnêtement.
C'est comme si les policiers avaient ouvert une boîte de Pandore, là, en simplement interrogeant Jennifer, en fait, qu'on se rend compte que son vrai nom est Kimberly. Et puis là, c'est sans fond, cette boîte-là, là, parce qu'on va se rencontrer très bientôt.
Ah oui, vraiment, vraiment. Même les interrogatoires, vous irez les voir, là. Sa personnalité est fascinante.
Suite aux révélations sur la véritable identité de Jennifer, les témoignages de gens qui l'ont déjà côtoyée pullulent de partout. Reconnue comme étant une personne assez solitaire, elle semble avoir souvent eu ce drôle de comportement. Un homme qui connaissait Kessler depuis sa tendre jeunesse la décrit comme quelqu'un qui était juste un peu bizarre et qu'elle était incapable de garder un emploi ou de faire quoi que ce soit à long terme. Il dit qu'elle a même souvent été accusée d'avoir volé dans certains des emplois qu'elle occupait. D'autres exemples de comportements étranges, selon un ancien employeur d'un resto là, de type barbecue, il l'a déjà vu manger 1 kilo de viande sans fourchette avec ses mains.
Oui, ça a l'air anecdotique, mais c'est bizarre, tu sais.
C'était pas une vidéo de mukbang.
Non, exact.
Ce même employeur témoigne aussi qu'elle a démissionné après seulement une semaine après s'être disputée avec un autre employé au sujet de citron tranché.
Genre une banalité, là.
Oui, donc elle semble être portée vers le conflit. Aussi, selon certains clients du salon de coiffure où elle travaille, il semblait y avoir des tensions entre elle et Jolene. On y apprend aussi qu'elle a obtenu sa licence en cosmétique en 2014. Autre témoignage troublant, plusieurs personnes qui l'ont côtoyée durant son enfance se rappellent qu'elle était très agressive et, en fait, quand elle se disputait avec son frère et qu'elle aurait déjà dit vouloir le tuer avec un bâton de baseball.
Oui, puis je lisais même d'autres témoignages d'enfants qui l'ont... ou d'ados qui ont fréquenté l'école secondaire avec elle, puis ça a l'air que tout le monde avait peur d'elle. C'est tellement qu'elle était agressive,
impulsive
et tout ça. Même les chums qui sortaient avec elle, généralement, elle gardait jamais ses conjoints, ses chums, parce que justement, elle était tout le temps sur le qui-vive.
En plus des témoignages, rapidement, les enquêteurs du web et les journalistes réussissent à trouver plusieurs informations troublantes sur le passé de Kimberly et qui était derrière là, l'identité de Jennifer Seabird, cette identité qu'elle utilisait. utilisait. Parce que là, quand les enquêteurs du web se mêlent de ça, souvent les règles tombent
oui.
et ça permet parfois de faire des trouvailles assez intéressantes. Là. Malgré qu'on ne peut pas garantir l'éthique de recherche, on le dit souvent.
Non, exact.
Premièrement, Kimberly Lee Kessler, de son vrai nom, a été portée disparue en 2012 par sa mère, ce qui est assez étrange.
Oui.
Cependant, selon le rapport de disparition, Kessler a été vue pour la dernière fois le jour de l'indépendance, donc le 4 juillet 2004, à Butler, en Pennsylvanie. Donc, ça serait de là qu'elle vient, en fait. On peut donc en déduire que sa mère a attendu 8 ans avant de signaler sa disparition. Mais pourquoi? C'est long quand même. Hein?
Ça, c'est vraiment weird.
Ben, des fois, ces gens-là ont des historiques de fugue ou de disparition temporaire, puis j'ai déjà vu d'autres cas où, justement, les parents sont assez réticents à signaler des disparitions
oui.
en raison de tout ça, parce qu'après tout, c'est des adultes.
Oui, exactement, vu que c'est une adulte, mais on continue.
Selon certains témoignages, Kimberly allait rejoindre un homme dans le sud des États-Unis pour refaire sa vie et elle aurait mentionné à sa famille qu'elle ne souhaitait pas vraiment être retrouvée et qu'elle allait utiliser l'identité d'une personne décédée pour ne pas être retracée.
Oui, elle l'a dit à sa famille en
oui.
partant. Tu sais, il me semble, c'est... Je sais pas si ma fille arrivait, elle dit qu'elle quitte, elle veut changer de vie, rencontrer un nouvel homme puis qu'elle va repartir sa vie sous une nouvelle identité. Il me semble que j'aurais pas laissé ça sous silence ou du moins, j'aurais pas été passif comme ses parents semblent avoir été.
Oui, une identité volée en plus.
Ouais.
Sa famille a dû en tenir compte, mais après 8 ans sans nouvelles, tu peux commencer à t'inquiéter un peu là, et la déclarer disparue.
Ouais.
C'est ce que sa mère a fait. Selon sa fiche de disparition, elle avait 35 ans à ce moment-là. Elle était décrite comme mesurant 5 pieds 3, entre 5 pieds 3 pouces à 5 pieds 5 pouces.
Attends, ben ça aussi, je trouve ça weird. Pourquoi donner une taille variante quand généralement, tu connais la taille de ton enfant. Tu sais,
ouais, peut-être pas dans son cas à
ouais,
elle.
Non. Je trouvais ça drôle.
Il devait avoir un jeu. Et elle mesurait là, entre 130... en fait, elle peserait entre 130 et 140 livres. Elle aurait aussi les yeux bleus et les cheveux teints en rouge au moment de sa disparition.
Ouais.
C'est étrange que la taille de nez soit approximative, elle aussi. Autre chose étrange, dans les caractéristiques distinctives qui sont signalées, elle est décrite qu'elle aurait des varices prononcées sur les deux jambes et qu'elle a eu une jambe cassée durant son enfance à l'âge de 6 ans. Donc, c'est le type de truc qu'on peut
ouais.
reconnaître avec une radiographie souvent.
Mm-hmm.
Son profil a maintenant disparu du site web, là, la banque de personnes disparues en Pennsylvanie, et mentionne qu'elle a été retrouvée.
Oui, ben suite à tout ça, en fait, ils ont fermé ce dossier-là de personnes disparues. C'est un peu étrange, des fois, comment les dossiers peuvent se fermer, mais ça en est un.
Ben oui. Mais là, maintenant, Seb, il faut démêler tout ça. Là. On sait qu'il y a une Kimberly Kessler qui s'est sauvée en 2004 avec une nouvelle identité, avec celle de Jennifer Siebert.
Mais qui était au juste Jennifer Siebert?
En 2004, Kimberly Kessler a pris l'identité de Jennifer Siebert et est déménagée à Jacksonville, en Floride. Pour trouver une nouvelle identité, Kimberly a consulté le site web Find a Grave pour trouver une victime. On le sait, les personnes décédées deviennent souvent vulnérables pour se faire voler leur identité. Mm-hmm. C'est souvent une faille du système. Pour ceux qui l'ignorent, le site findagrave.com est une base de données internationale qui répertorie les cimetières et les notices des personnes décédées partout dans le monde. Les visiteurs peuvent même laisser des fleurs virtuelles sur des tombes virtuelles qui figurent sur le site. Je suis allé faire un tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut visiter aussi virtuellement les tombes de gens connus. Ça, j'ai dit, comme George Washington, Walt Disney, même Shakespeare. T'as des images des tombes, puis t'as des fiches descriptives, puis t'as même un peu l'arbre généalogique et la famille. C'est ça à titre informatif, mais ça peut être intéressant quand même à visiter. Puis je savais...
Si quelqu'un veut voler l'identité de Walt Disney, par exemple.
Oui, ben oui, pourquoi pas. Ça, c'est discret, ça. Bonjour, je m'appelle Walt Disney. Ça va passer incognito. Mais sincèrement, je connaissais pas ce site-là avant de travailler sur ce dossier-là. Puis je savais pas qu'une groupe... C'est un indépendant qui a créé ça en 98 puis s'est dit, je vais faire le Wikipédia des pierres tombales. Puis je sais que dans nos fans, on a beaucoup de fans de cimetières qui aiment aller dans les cimetières pour... peut-être vivre l'ambiance, mais sûrement pour aller voir les pierres tombales, mais dites-vous que maintenant, vous pouvez le faire aussi dans le confort de votre salon.
Mais là, c'est bien plus le fun d'y aller en vrai.
Oui, ben oui. Mais t'as pas de chance de tomber sur des fantômes quand t'es chez vous. Jennifer Mary Sibbard est une Américaine née le 5 septembre 1974 et qui est décédée tragiquement à l'âge de 12 ans le 13 juin 1987 à Rheinbeurt en Allemagne, dans un accident de voiture. C'est une Américaine, là. C'est juste qu'elle est en voyage, elle est morte dans un accident de genre. Il y a 30 ans, son corps a été rapatrié et elle est enterrée au cimetière de Northside à Butler, la ville de naissance de Kimberly. Elle a donc utilisé l'identité d'un enfant. On retourne à notre enquête. Nous sommes maintenant le vendredi 1er juin 2018. Le corps de Jolene n'a toujours pas été retrouvé, mais l'enquête progresse. Au cours d'une nouvelle conférence de presse, le shérif Leeper publie une liste troublante avec toutes les différentes identités connues de Kimberly. Kessler. On apprend donc que Kimberly n'a pas qu'utilisé l'identité de Jennifer, mais qu'elle aurait aussi utilisé 18 autres identités différentes depuis 1996. Et écoutez ça, elle a vécu dans 33 villes à travers 14 États américains durant tout ce temps-là.
Ben, si elle vit dans sa voiture, j'imagine que ça lui permet de facilement se déplacer d'une ville à l'autre sans à chaque fois avoir un appartement ou quelconque contrat d'hébergement.
Oui, non, exact. Puis je sais qu'elle a eu des relations aussi, on va y revenir, mais c'est sûr qu'avec un mode de vie comme ça, t'es mieux d'être nomade, justement, dans ton habitation. Plusieurs des identités sont des personnes décédées qu'elle a repérées sur le site Find the Grave. Et elle aurait utilisé la même méthode en fait qu'avec l'identité de Jennifer. Dans la liste des identités utilisées, il y a celle de Pamela Kleber. Et on apprend que cette personne est disparue dans des conditions mystérieuses. Par contre, il n'y a jamais eu d'accusation ou quoi que ce soit envers elle, mais c'est un peu bizarre que dans cette liste-là, cette personne-là ait disparu étrangement. Des soupçons que Kimberly aurait pu commettre d'autres meurtres dans le passé font surface, justement entre autres à cause de ce cas-là. Elle a même déjà été arrêtée en 99 sous le nom de Christina Brooke. Puis rappelez-vous du nom Christina Brooke, je vais avoir une autre histoire tantôt pour vous. Crime Stopper augmente aussi la récompense de 3 000 à 4 000 si quelqu'un apporte un indice qui pourrait les aider, aider les enquêteurs à retrouver le corps de Jolene, parce qu'ils n'ont toujours pas retrouvé.
Non, c'est ça.
Ils disent avoir reçu plus de 23 tips, des conseils, des avis, mais rien ne concluant encore une fois pour retrouver le corps. Puis juste, j'ai sorti la liste des 18 noms, là, c'est assez fascinant. Là.
Oui, mais tu peux nous en nommer quelques-uns?
Dans les noms, il y a Christina Young, il y a Melissa McKernan, Melissa Losey, Jennifer Mary Sibbert, Mia Stone, Jen Lee, Sibert Allen, Jennifer Sebring, etc. On voit même Pam Cleaver. Elle joue toujours sous quand on observe, les prénoms se ressemblent à Pam, Pamela, Melissa. Puis aussi dans les noms de famille, il y a souvent des ressemblances aussi. Cleaver, Clever, avec un K, avec un C.
Oui.
On voit qu'elle joue sur les identités. Puis selon moi, je suis pas sûr que c'est toutes des identités volées. Dans le sens que j'ai l'impression que, parce qu'on n'a pas le détail sur chaque identité, mais j'ai l'impression qu'elle en a créé elle aussi. Qu'elle a trouvé la bonne méthode pour créer des noms.
On dirait que des fois, elle garde son... elle va garder une identité ou du moins un pseudonyme pendant un certain temps, puis elle va changer le nom de famille, par exemple. Parce que j'imagine que dans le cas de Jennifer Sibbert, bon, qui était le faux nom dans ce cas présent, et là, c'était vraiment une identité volée. Par contre, peut-être que justement, Jennifer Sebring ou Jennifer Mary Allen, ou t'en as d'autres, là, Jen Seaver Allen ou Jennifer Seaver Sebring, comme tu dis. J'ai l'impression qu'elle est peut-être partie de cette identité-là. Ouais. Et par la suite, elle a développé des nouveaux noms de famille pour rester un peu constante dans ses choix. Mais c'est vrai qu'elle tourne toujours autour des mêmes noms. Il y a vraiment plusieurs concordances.
Oui, exact. Puis je me demande ce qu'elle faisait avec toutes ces identités-là, parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils n'ont pas tout analysé, tous les noms. Mais tu sais, à quoi ça te sert d'avoir autant d'identités? C'est ça qui me...
Présume que tu peux aller te chercher une carte de crédit avec une identité, ça va te durer un bout. Après ça, t'essaies d'aller en chercher une autre avec une autre identité. Mais là, celle-là est brûlée, fait que t'essaies une autre identité. Dans le cas de Larry Erica Ruff, c'était un peu ça aussi. Elle maintenait toute une organisation de toutes ses identités. Puis elle tentait justement d'être constante dans les choix qu'elle faisait.
Oui, exact. Puis même dans les États, tu sais, elle a quand même été dans 14 États, plus de 30 villes américaines, là, Nashville, Tampa, Jacksonville, Leesburg, elle est au Texas, au Vermont. T'sais, elle est vraiment...
Elle a bougé beaucoup.
Elle a bougé beaucoup là, dans toutes ces années-là.
Mais c'est grand, les États-Unis. Hein. Pour quelqu'un qui souhaite disparaître là, ou voler des identités, le terrain est grand. Donc, c'est quand même assez facile, je peux croire, là, de se perdre dans les mailles judiciaires puis de disparaître à gauche et à droite dans les États.
Oui, puis on l'avait vu justement dans Erica Ruff, sa stratégie, souvent, c'est de prendre l'identité de quelqu'un d'un autre État parce que justement, les bases de données ne se parlent pas tous
dans
les bases de données de l'État civil, ce qui est normal aussi. Donc, ça facilite le processus.
Absolument.
Le 2 juin, qui est le lendemain de l'annonce de ses multiples identités au grand public, Kimberly décide de faire la grève de la faim en prison. Elle a fait la grève de la faim pendant 10 jours.
Oh.
Le 12 juin, les autorités sont inquiètes là, parce que ça fait 10 jours et ont peur pour sa vie. Il la transfère à l'hôpital pour la nourrir par intraveineuse. Heureusement, elle recommença à manger dès le lendemain, le 13 juin. Mais c'est une genre de protestation parce qu'elle se déclare non coupable, non liée à la disparition de Jolene. Puis c'est un peu sa manière de protester actuellement. En même temps, c'est drôle parce que c'est lorsqu'ils ont dévoilé toutes ces identités-là. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête de faire la grève de la faim. Je me demande qu'est-ce qu'elle s'attendait d'avoir en retour de ça ou comme conséquence ou je sais pas.
Mais je suis surpris je trouve que c'est une drôle de stratégie de la part des autorités de dévoiler toutes ces identités-là alors qu'elle n'a pas eu encore son procès. Il me semble que c'est le genre de truc que tu dévoiles au procès. T'sais, en ce moment, elle devait se sentir un peu humiliée. Puis tu sais, si on veut lui donner le bénéfice du doute, ou du moins un doute raisonnable, eh bien peut-être que j'ai l'impression que c'était peut-être un peu déplacé ou maladroit de dévoiler toutes ces identités-là avant même qu'elle ait eu son procès.
Moi, je suis d'accord avec toi. Puis même la première fois que j'ai vu la liste de noms, puis que je voyais que c'était donné dans la conférence du shérif, je me suis posé la même question que toi. Ça a-t-il été sorti quand elle était accusée? Puis je trouvais ça bizarre. Mais dans la conférence précédente, si tu te rappelles, les autorités disaient qu'il y avait quand même des preuves solides. Fait que j'ai l'impression que le geste qu'il faisait, c'était pour essayer de... Ben un, c'est un peu de la discréditer, comme tu dis, un peu l'humilier. Mais peut-être aussi pour avoir d'autres informations, c'était surtout ça, sur tout son parcours de vie qui est difficile à retracer avec un seul nom.
Mais d'après moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il devait avoir des preuves assez solides qu'il ne pouvait pas divulguer au public.
Non.
Mais en même temps, il voulait aller chercher d'autres témoignages. Puis pour aller chercher d'autres témoignages, ben faut divulguer ces identités-là. T'sais. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous qui a déjà connu une Pamela Sebring une Jennifer Siebert ou autre? Comme ça, ben ça peut peut-être amener d'autres témoignages. Puis on peut peut-être se rendre compte que finalement, il y a encore plus gros en dessous de tout ça.
Oui, exact. Puis pour revenir à sa grève de la faim, moi, je suis toujours surpris du nombre de jours. Chaque fois qu'on en parle des trucs comme qu'on peut, comme dans Nazubi, sans manger, tu sais, 10 jours. J'avais toujours l'impression qu'on meurt de faim après 3-4 jours. Il me semble que quand je dîne pas ou que je sais pas, j'ai l'impression que je vais mourir. J'imagine un nombre de jours. Je sais que ça a fini par passer, mais quand même.
Le mardi 5 juin 2018, le Tangles Hair Salon où travaillaient Jolene et Jennifer, aussi connue sous le nom de Kimberly, annonce dans une publication sur Facebook qu'il fermera définitivement ses portes. Jim, le propriétaire, mentionne qu'à cause du meurtre de Jolene, la clientèle a drastiquement diminué et que même la banque refuse d'être clémente envers lui. Donc, ça a affecté vraiment son commerce.
Ben oui.
Parce que là, c'est particulier. On a annoncé le meurtre de Jolene, mais on n'a pas encore trouvé le corps.
Non, exactement.
Donc, vraiment, les autorités ont des infos qui ne divulguent pas. Là. Encore aujourd'hui, la page Facebook du salon est maintenue et la photo de profil est celle de Jolene.
Oui.
Donc, je ne sais pas si on voulait lui donner un hommage ou quelque chose comme ça.
Je pense que oui. Puis il n'y avait pas d'amniosité dans le message parce que je pense que le propriétaire est quand même conscient que c'est c'est pas de la faute à Jolene, mais je trouve ça étrange, le dommage collatéral qu'après quelques semaines seulement, il est obligé de fermer ses portes.
Ben oui.
Puis justement, avant d'avoir l'information qui fermait, j'essaie de le retrouver sur Google Maps, puis je le trouvais plus. J'étais juste capable de le trouver avec l'adresse, mais plus avec le nom. Puis je me demandais pourquoi, justement, puis c'est à cause de ça.
Oui, ils ont fermé. L'enquête se poursuit toujours, et les enquêteurs trouvent une autre caméra de surveillance dans le secteur qui montre Kimberly mettre des sacs à vide dans un conteneur à déchets. Plusieurs des sacs semblent assez difficiles à soulever de son point de vue. C'est évident pour les autorités que c'est le corps de Jolene à l'intérieur des sacs. Par contre, celui-ci n'a jamais été retrouvé, étant donné que les déchets ont été ramassés depuis plusieurs semaines, évidemment. Ils ont aussi établi qu'une dispute a éclaté au salon de coiffure vers la fin de la journée du 12 mai 2018 entre les deux femmes et que c'est à cet endroit qu'elle aurait été tuée par des preuves qui semblent avoir été nettoyées sur place. Plusieurs traces de sang nettoyées ont été décelées avec l'emploi du luminol dans l'entrée du salon, sur un calendrier, entre autres, là, qui était accroché au mur, mais aussi sur le dossier d'une chaise, même dans la balayeuse et à plusieurs endroits sur le plancher. Puis on le sait maintenant, c'est très difficile de nettoyer une scène de crime là, pour que plus rien soit retrouvé.
En fait, je me demande si maintenant c'est possible.
Oui, exact.
C'est même parce que généralement, ils utilisent même de l'eau de Javel, puis avec le luminol, ils sont capables de le détecter. Il y a quelque chose dans le sang qui reste à la surface et faudrait parler à un moment donné un spécialiste, mais je me demande si aujourd'hui, comme tu dis, si c'est possible de vraiment nettoyer correctement une scène de crime. J'ai l'impression que non.
Puis encore, là, on ignore encore quelle est l'arme du crime puis quelle est la méthode. Là. On sait qu'il y a du sang dans la place puis qu'elle a été sûrement assassinée, possiblement même mise dans des sacs à ordures. Mais on ignore encore comment tout ça s'est déroulé.
Oui, puis il n'y avait pas de caméra de surveillance à l'intérieur du commerce. Parce qu'imagine, s'il y avait eu des caméras de surveillance, alors aider les enquêteurs voir.
Ou probablement que le meurtre n'aurait pas eu lieu là.
Effectivement.
T'sais. Ils l'ont même vu sur des images de surveillance d'un Walmart achetant de l'ammoniaque, des sacs à ordures noirs et un couteau électrique via une caisse libre-service. Donc, ils ont vu Kimberly ou encore Jennifer faire tout ça. De plus, en perquisitionnant un entrepôt que louait Kimberly, en plus d'avoir trouvé des perruques de toutes sortes ainsi que plusieurs accessoires pour se déguiser, ils ont découvert des bottes et des bas avec du sang et après l'analyse d'ADN, il s'agit bien du sang de Jolene.
Oui, ça leur a pris quelques jours. Même ça, ils savaient. Quand on lit le rapport, ils savaient même avant la première conférence de presse qu'il y avait déjà tous ces éléments-là pour condamner, du moins, Kimberly. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient si confiants de dévoiler tout ça au grand jour.
Le registre démontre bien qu'elle y est allée plusieurs fois entre le 13 et le 15 mai. Même les tours de cellulaire le confirment avec sa géolocalisation.
Oui.
On apprend aussi qu'après avoir déposé le VUS de Jolene dans un parking, Kimberly a pris un taxi pour se rendre au salon de coiffure au Tangle et elle est allée nettoyer son crime.
Donc, après 1h17 du matin, quand elle est partie, elle est allée dans une station-service juste à côté, à pied. On peut même voir sur YouTube, elle attend dans l'entrée, puis on la voit rentrer dans le taxi. Puis le taxi a confirmé que c'est qu'il l'avait amené au salon de coiffure. Qui va dans un salon de coiffure en pleine nuit?
Ouais. Entre-temps, d'autres identités volées utilisées par Kimberly sont découvertes et maintenant le compte passe à 25, donc 7 identités de plus. Les autorités ont tout en main pour l'accuser formellement du meurtre au premier degré de Jolene Cummings, même sans avoir retrouvé le corps, ce qui est assez particulier ici.
Oui.
Mais avant d'aller plus loin, on a aussi appris qu'elle a un enfant, cette Kimberly.
Oui.
Grosse nouvelle. Elle l'avait mentionné lors de son interrogatoire, mais étant donné toutes les fausses identités qu'elle possède, il n'était pas évident de le retracer, ni même de déceler le vrai du faux dans tout ça. Là.
Oui, exactement, parce qu'elle dit toutes sortes de choses un peu décousues dans les interrogatoires. Là. Vous irez écouter, là, son discours n'est pas toujours clair. Puis j'ai l'impression qu'au départ, les autorités ne prenaient pas l'allégation de son enfant au sérieux, parce que c'était comme un peu garoché dans plein d'informations qui n'avaient pas de sens ensemble. Après avoir vu la photo de Kimberly circuler partout, un nouvel acteur arrive dans le dossier. Il y a un certain Tim Edwards qui sort de l'ombre et qui mentionne lui qui est sorti avec une femme qui s'appelait Melissa McKernan entre 1997 et 1999 et qu'ils ont eu un fils ensemble en 1998. Elle aurait signé l'acte de naissance de leur fils sous le nom de Christina Melissa Brooke. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les noms, là, Christina Brooke.
On vous avait dit de retenir ça.
Ben, c'est ça. C'est que même à cette époque-là, elle sortait avec Tim Edwards sous un faux nom qui était Melissa McKernan, qui n'est pas son vrai nom. Et sur l'acte de naissance, Elle a menti aussi sous le nom de la mère pour donner un autre nom, Christina Melissa Brooke. Puis Edwards l'a questionné par rapport à ça, mais elle a dit qu'elle voulait utiliser un pseudonyme pour s'assurer que sa famille, y compris sa mère, ne la retrouve pas. Et il a comme avalé ça, tu sais, dans le sens qu'il n'a pas plus posé de questions que ça.
Ouais.
Ça aussi, je trouve ça un peu bizarre. Puis on n'a pas beaucoup de détails hein, sur la relation, même l'enfant et tout ça. La seule chose qu'on sait, c'est que vers les années 2000, les services sociaux ont pris en charge leur fils. Puis depuis ce temps-là, en fait, j'ai trouvé aucune information pour savoir où il se trouve actuellement. Même Tim Edwards, dans le reportage, il lui-même semblait même pas savoir où son fils se trouvait. J'ai l'impression qu'il l'a un peu abandonné une fois qu'il a été récupéré par les services sociaux. Puis la mère, ben, de toute évidence, elle s'en est pas occupée. Mais ça veut dire qu'il y a eu une plainte à l'époque,
oui,
pour que les services sociaux s'en occupent. T'sais, il a dû avoir quelqu'un que je sais pas qui a porté plainte et qui ont porté action aussi. Là. Mais ça, elle a toujours été hyper discrète. Puis il y a peu d'infos, d'informations là-dessus. C'est la seule chose que j'ai trouvée.
Parce que c'est particulier. Elle a d'abord abandonné sa propre mère en quittant, ouais, comme ça, oui, là, en disparaissant. Et puis même, là, on apprend qu'elle a eu un fils entre-temps, donc qu'elle a abandonné aussi. Donc, quelle vie veut vivre cette femme-là? C'est très mystérieux.
Oh oui, puis ça doit pas être stabilisant. Tu sais, tu dois pas avoir... Ça doit être lourd au quotidien. Tu sais, parce que tu sais, on en a connu des cas, là, quelqu'un qui reprend une identité, deux identités, mais là, il y en a tellement.
Ben oui.
Puis chacune des identités, je suis convaincu que chacune ont leur passé un peu trouble. Donc, imagine tout le poids, tout ce qu'elle doit traîner comme bagage avec elle, ça doit être assez lourd quand même. Et aussi, une chose un peu intéressante sur Kimberly, c'est que lors des discussions qu'elle avait avec sa mère en prison au téléphone, sa mère la questionnait au départ, elle voulait savoir, tu sais, si elle est sa vraie mère, là, si elle était en lien avec la disparition de Jolene, et Kimberly niait toujours tout ça, mais à un moment donné, elle a dit que c'était la faute des Illuminati,
okay,
tout ce qui arrivait par rapport à Jolene. C'est un peu rigolo quand même quand on sait l'histoire des Illuminati, mais je trouvais ça un peu drôle de vouloir les accuser de ça. Je vois pas quelle bonne raison les supposés Illuminati pouvaient... Pourquoi qu'ils auraient enlevé et tué Jolene? T'sais, ça fait pas de sens, tu sais, de...
Ouais, pourquoi justement les membres de cette élite mondiale-là voudraient enlever une mère de famille qui travaille dans un salon de coiffure en Floride, dans, ouais, une petite ville? Ça fait pas vraiment de sens,
non,
là. Mais peut-être que sa mère était habituée à ce genre de bullshit, puis qu'elle a... je sais pas, elle a opté pour la facilité en lui racontant, ouais, ce genre d'histoire-là, là, parce que, bon, on va y venir, mais je présume que Kimberly devait probablement pas être saine d'esprit, puis tu sais, même des chances que sa mère là, ne l'était pas non plus.
Non, exactement, généralement, on le sait, c'est assez génétique. Ça tombe bien, ce que tu dis, parce que c'est, justement, lors de son procès, ben avant son procès, en fait, pour vous dire, la preuve qui a été accumulée, c'était au-dessus de 400 pages là, de toute l'enquête, et le 17 janvier 2019, elle a fait une première apparition devant le tribunal pour le meurtre de Jolene. Elle a plaidé non coupable. Par contre, son avocat a demandé une évaluation psychologique à savoir si justement elle était apte à subir son procès.
Ouais.
Parce qu'on s'entend là, avec tout ce qu'on raconte là, ça flirte beaucoup avec la maladie mentale.
Oui.
Le 2 juillet 2019, après avoir examiné deux examens de compétences par deux spécialistes, un juge déclare Kimberly Kessler inapte à subir son procès. Il lui ordonne d'être envoyé dans un hôpital psychiatrique public, celui de la Floride. Les experts ont établi que Kessler souffrait d'un trouble délirant de la personnalité et serait bipolaire. Et son avocat affirme que Kimberly a refusé à plusieurs reprises de le voir, lui et son précédent avocat, car elle ne voulait pas répondre à ses questions en raison de ses troubles délirants. Puis même, il disait des fois, quand il approchait pour venir la voir, elle lui disait qu'il fallait qu'il reste à tant de mètres de lui. Elle voulait pas lui parler, elle voulait pas qu'il l'approche. Tu sais, c'est ton avocat, tu sais.
Ouais.
C'est un peu particulier.
Mais parfois, ces gens-là vont user d'une technique un peu théâtrale,
oui,
pour justement démontrer une forme de maladie mentale parce que ça va, oui, les avantager pendant le procès.
Oui,
mais dans son cas, à elle, c'était bien réel, cette maladie-là.
Non, exactement. Même son cloche au niveau des enquêteurs, lors des différents interrogatoires, elle pouvait partir sur des délires d'infestation de punaises de lit dans sa voiture, par exemple. Comme je vous disais, des fois, ça faisait ni queue ni tête. Par contre, là, ça reste comme ça pendant 4, 5, 6 mois. Un revirement de situation le 9 janvier 2020, là, ça fait pas longtemps, là,
ben oui,
au début de l'année. Suite aux recommandations du personnel hospitalier qui prenait soin de Kimberly et qui ont fait passer d'autres tests psychologiques, ceux-ci maintenant la déclarent apte et lucide pour subir son procès.
Oh.
Et la suite va être attendue le 26 mars 2020. Actuellement, au moment où on enregistre Distorsion, on n'est pas encore rendu là, donc on n'a pas la finalité formalités, puis ça, c'est si la date en cours sera pas reportée. Mais pour le moment, le procès va avoir lieu plus au printemps de cette année, malgré tout, parce que je sais pas qu'est-ce que, ben, oui, c'est les tests de d'autres psychologues, mais est-ce que, tu sais, je me questionnais, est-ce qu'elle a manipulé au départ? Mais en même temps, c'était le cumul de plein d'observations qui faisait en sorte qu'elle a été déclarée inapte. Je le trouve étrange, le revirement quand même de situation, je dois dire.
Mais on a vu parfois par le passé dans d'autres procès que justement l'expertise, tout ça, c'est assez contestable. Hein? Puis parfois, on va tenter de dévalider une expertise qui a eu lieu auparavant, puis de faire une nouvelle expertise avec d'autres experts. On l'a fait dans le cas d'Epstein, hein,
oui.
Tu te rappelles?
Oui, exact.
Parfois, c'est des autopsies, mais parfois, c'est sur des conditions mentales, des profils psychologiques, par exemple. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a parfois des grosses différences. Mais moi, je suis assez surpris de ce revirement-là, parce que là, elle va devoir faire face à la musique, là, cette Madame Kessler.
Oui, exact. Puis même ce que tu disais, c'est vrai, parce que dans les deux experts, au départ, que le juge a embauché, ben les deux n'étaient pas d'accord. Il y en a même un qui la disait « app », puis l'autre « inap ». Et c'est le juge qui a tranché et qui a dit qu'elle n'était pas apte, justement. Donc, comme tu dis, souvent, il y a des rapports contradictoires, puis ça reste la décision d'un humain au bout du compte. Mais je me demande toujours, je sais que c'est un peu comme les jeunes filles du Slenderman ont été déclarées, ils font quand même de la prison, mais en hôpital psychiatrique.
Oui.
Donc, c'est ce que je trouve étrange, c'est qu'on dirait que la manière qu'ils parlaient, elle n'aurait pas eu d'autres procès, mais c'est sûrement pas le cas, là. Tu sais, même si elle avait été déclarée inapte, c'est là-dessus, je trouve ça un peu ambigu. Mais bref, elle va faire à la musique un peu comme tu dis. Actuellement, elle est toujours enfermée à l'hôpital psychiatrique de la Floride et le corps de Jolene n'a toujours pas été retrouvé. Encore aujourd'hui, bien sûr, mais comme on vous disait, c'est évident qu'il est parti avec les poubelles. Là. Vous pouvez le retrouver, là, cette vidéo-là. On la voit bien là, jeter plusieurs sacs de poubelles dans le container. C'est évident que c'est elle. C'est triste. Là. C'est tellement triste pour la famille et tout ça. Là.
Ben oui. Donc là, on a fait le tour un peu de la chronologie des événements, mais on n'a toujours pas de corps retrouvé. Puis on a à peine de mobile du crime, parce que en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette dispute-là? On n'en a aucune idée.
Non, exact. La seule chose qu'on sait, c'est que des clients ont dit que justement, il y avait des tensions, qu'ils sentaient des tensions régulièrement quand ils allaient au salon entre les deux, mais on le sait pas. La seule chose que les enquêteurs ont mis dans le rapport, c'est que la dispute aurait sûrement commencé en fin d'après-midi, donc avant la fermeture de 17h. Mmh. Puis là, je me demande à quelle heure qu'elle a été tuée, parce qu'il fait clair, même si le salon de se fermait à 17h. Il fait encore clair au mois de mai. T'sais, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'il est vitré, là, on peut aller voir des photos. Il y a tout ce... Je sais pas quand ça s'est fait. Puis justement, t'sais, ça s'est chicané. Elle a pas attendu après 17h, ou du moins c'est sûr qu'elle a pas fait ça avant 17h, parce que le commerce est ouvert. Ben, du moins, j'ose croire. Puis souvent, des clients se seraient pointés ou quoi que ce soit. C'est la tranche d'heure où elle a été tuée, puis ils sont pas capables de le dire non plus. Parce qu'ils n'ont pas de corps pour trouver ça, puis ils n'ont pas de caméra de surveillance. À part, il n'y a pas d'autres caméras de surveillance à part celle du Home Depot.
Puis ils n'ont pas l'arme du crime non plus.
Non, exact. La seule chose qu'ils savent, qu'elle a acheté un couteau électrique, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Ils n'ont même pas retrouvé la sacoche de Jolene, ils n'ont pas retrouvé non plus son cellulaire, ni ses papiers d'identité. Fait que d'après moi, elle a dû mettre ça aussi dans les vidanges avec le corps.
Probablement que le couteau électrique, c'était pour dépecer le corps dans les sacs à vidange.
Ça.
Mais je présume que si c'est un genre de crime qui est survenu d'une manière un peu impulsive, comme on connaît Kimberly qui est impulsive puis colérique même, ça a dû survenir, elle a dû prendre n'importe quoi puis frapper Jolene avec, je présume. S'il y a du sang un peu partout dans le salon, sur les murs, sur le tapis même, ailleurs, sur d'autres objets, c'est qu'elle a dû se débattre, il y a dû y avoir une genre de poursuite où vraiment... Ça n'a pas dû être un seul coup qui l'a mis par terre. Ça a dû être vraiment une genre de poursuite à l'intérieur du salon qui devait être infernale.
Ah oui, c'est clair. Puis justement, sur son mugshot, on voit les grosses graphiques. Mais tu sais, vraiment, là, tu vois que l'ongle a vraiment
arraché la peau.
Là. Puis c'est très, très clair. Fait que justement, Jolene, elle a dû se défendre. Mais tu sais, avec n'importe quel objet, tu peux assommer quelqu'un. Puis par la suite, c'est assez simple. Là, mais c'est ça. C'est triste, tout ça.
Oui, c'est vraiment un gros dossier. puis on va vous tenir au courant. C'est quelque chose qui a vraiment ébranlé le monde un peu des enquêteurs du web en 2019.
Ouais.
C'était une grosse histoire. Il y a plusieurs discussions sur Reddit sur le sujet, plusieurs vidéos sur YouTube aussi. C'est vraiment, vraiment mystérieux, cette femme aux multiples personnalités, avec une vie mystérieuse. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait. Elle vivait dans sa voiture, mais elle avait un train de vie vraiment nomade. Est-ce qu'elle a commis d'autres crimes dans le passé? Tout porte à croire que peut-être que oui, même.
Oui. Ils n'ont pas de preuves, mais à un moment donné, même, je lisais que le FBI avait des soupçons, justement, sur l'histoire de Pamela, l'autre personne à laquelle elle avait utilisé l'identité, mais il n'y a pas eu de développement ou quoi que ce soit qui a été dit là-dessus. Je ne sais pas si ça va ressortir au niveau du procès, mais je suis convaincu, puis même plusieurs anciennes personnes qui l'ont fréquenté sont convaincus qu'elle a déjà tué d'autres personnes, des anciens conjoints ou des choses comme ça.
Ah oui.
C'est assez fou. Mais moi, je reste encore tout le temps fasciné par la facilité de créer des papiers avec, avec des gens morts, avec l'identité de gens morts. C'est vraiment un trou. Je sais que l'État civil du Québec ont corrigé cette faille-là il y a quelques années, je pense dans les débuts des années 2000-2005. Il y a quelque chose dans le délai où, du moins après un certain temps, la personne est vraiment déclarée décédée au dossier et c'est impossible de récupérer cette identité-là. Je sais pas si les États-Unis ou les États américains ont implanté ce genre de mécanique-là, mais je sais qu'au Québec, parce qu'il y avait eu beaucoup de fraude au début des années 2000 avec ce stratagème-là, ils ont eu l'intelligence. Je suis fier de nos gouvernements d'avoir bloqué ça, mais de toute évidence, c'est pas fait partout, puis il va toujours rester des trous, j'ai l'impression, dans la création d'identité d'un citoyen.
Oui, puis je pense que quand tu peux quand même faire un bon bout de chemin avec ta fausse identité si tu restes un peu sous le radar, tu sais. Mm-hmm. Mais ces gens-là sont destinés à être sans faille. C'est-à-dire qu'à l'instant où ils vont se faire prendre par les policiers, par exemple, pour un ticket de vitesse ou quelque chose comme ça, c'est là, justement, que tout va tomber. Du moins, selon mon point de vue. Parce que tout leur scénario là, tient sur très peu de choses. Là. Ça tient sur c'est un château de cartes, tout ça. Oui. Puis à l'instant où on creuse un petit peu, généralement, on n'a pas besoin de gratter beaucoup pour se rendre compte que, ah ouais, OK, mais c'est sa fausse identité, son permis de conduire est faux, ou dans le fond, l'époque, qu'est-ce qu'elle prétend être. Puis là, j'ai l'impression que c'est arrivé, justement, la disparition de Jolene, c'est très gros là, comme situation. Oui. Elle a dû perdre le contrôle complètement quand ça s'est arrivé, tu sais.
Ah, ben oui.
Mais elle a été chanceuse de vivre aussi longtemps. On parle d'une trentaine d'années sous des fausses identités, là, parce que c'est long quand même. Puis quand c'est long, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on devient confortable dans ce mode de vie-là. On prend plus de risques. Oui, donc, on fait plus d'erreurs, des erreurs un peu plus niaiseuses, si je peux me permettre. Puis, en fait, cette dame-là vivait sur du temps emprunté. C'est juste une question de temps avant qu'on découvre tout ça, tu sais.
Oui, absolument.
Puis, ça devait tellement être complexe, sa vie.
Ah, c'est l'enfer.
Tu sais, t'as quelqu'un qui t'appelle, je sais pas moi, l'impôt t'appelle pour un rapport d'impôt il y a 5 ans, ou ça devait pas être très à son affaire, là, cette dame-là, là, au niveau fiscal et tout ça. Là, tout doit être un peu sous le radar. Puis, tu dois essayer de retracer toutes tes identités. T'sais, elle avait plusieurs dates de naissance différentes pour ces différentes identités-là. C'est du mensonge à grande échelle.
Ben oui, même la dernière, l'adresse qu'elle avait donnée à son employeur, c'était pas une vraie adresse. Donc, je me demande vraiment... comme tu dis, jusqu'où tu peux aller. C'est vraiment étrange, même juste pour... Il te faut un compte de banque pour avoir un compte de banque. Il te faut une adresse, juste pour échanger ces chèques de paye. On dirait que je les trouve... Mais je pense que c'est l'insouciance, mais je trouve qu'il y a toujours un courage là-dedans. On dirait que moi, j'aurais jamais les couilles, on dirait, de me refaire faire autant d'identité. Puis un peu comme tu disais, quand ils t'appellent... Tu sais, là, elle a le nom elle avait le nom de Jennifer, mais il faut que tu t'habitues à te faire appeler par ce nom-là aussi. Puis même tout... Tu sais, il y a tout ça, en tout cas, c'est pas la vie que je choisirais, je te dirais, mais d'après moi, son environnement, tu sais, pour se sauver aussi, son environnement social devait pas être super non plus, là.
Non, c'est clair. Puis en plus, mais j'ai l'impression que tu peux t'en sortir en occupant des emplois, certains emplois où, par exemple, on va te permettre de te payer cash, par exemple, des jobs de contractuel ou en coiffure, je dis pas que c'est généralisé dans le monde salons de coiffure, ils doivent en avoir qui suivent les règles plus que d'autres, j'en suis convaincu, mais il doit en avoir qui suivent un peu moins.
Oui, oui, oui.
Donc, en occupant des emplois comme ça, je pense que c'est plus simple de te faufiler au travers les mailles du système. Là. Tu pourrais difficilement... En fait, tu pourrais pas du tout être un emploi de l'État ou travailler, je sais pas moi, dans le système de santé, système scolaire ou même avoir un emploi qui est pour le moins public, tu sais, animer un podcast, par exemple.
Non, exact, oui.
Des choses comme ça. Faut vraiment que tu sois dédié à cette vie-là. Ça devient comme un peu un rôle que tu joues constamment.
C'est vrai. Ben oui, c'est vrai que c'est un rôle. Faut que tu restes sous le radar tout le temps.
Ben oui. Mais c'est bien triste parce que en fait, il y a Jolene et ses enfants en fait qui ont été victimes de tout ça. Évidemment, son conjoint un peu par la bande, là, même s'il y avait lui aussi des délits à se reprocher, mais rien comparativement à tout ça. Donc, et ces gens-là vont être sans réponse de quel est le motif du crime que où est-ce que leur mère est rendue maintenant.
Ben oui, exact. Même le salon de coiffure, il y avait des employés à ce salon-là. C'est triste que tout ça, tous les dommages collatéraux. Oui. Hein. Non, c'est toute qu'une histoire. Là.
Donc maintenant, c'est votre tour, les distordus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire-là? C'est quand même assez incroyable. Oui. C'est quand même difficile à croire. Nous, évidemment, on va vous tenir au courant. Vous pouvez nous dire ce que vous en pensez. La meilleure place, c'est sur notre groupe de discussion sur Facebook, un groupe privé que vous pouvez rejoindre. Ça s'appelle Distorsion, groupe de discussion.
Oui.
Mais on est partout ailleurs, hein, vous le savez, sur Instagram, Distorsion Podcast, Facebook, Distorsion Podcast aussi, YouTube, on est là aussi. Oui. Vous pouvez nous faire un petit coucou sur YouTube. Et on est aussi sur Untapped, le réseau social de bière, et sur Twitter au Distorsion Pod. On veut remercier encore une fois nos membres Patreon qui encouragent le show, tous ceux qui ont acheté notre livre Distorsion 13 histoires étranges de l'ère numérique, vous pouvez toujours le faire en passant, et ceux qui nous offrent des tournées de bière évidemment et des reviews 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à vous, on vous aime du plus profond de notre âme.
Oui.
Et là-dessus, Seb, pour terminer, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Comme vous pouvez le voir, refaire sa vie comporte plusieurs défis. Si vous voulez créer une nouvelle identité, allez plutôt jouer aux Sims.
Oh oui.
Maintenant.